leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les, ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble, ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent.
Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste sur le 89.4 FM et www.radio-libertaire.com. Point org.
J'ai dit aujourd'hui, détourne-toi du conforme et de l'inconforme. Si tu t'aperçois que ta révolte s'encroûte et devient une habituelle révolte, alors sors, marche, crève, aime.
Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Le Ferry Club, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on fête les 50 ans de l'album Il n'y a plus rien avec Alaric Perrollier.
La Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction. Elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. À menstruel, on préfère périodique. Et l'on va répétant qu'il est des termes médicaux qui ne doivent pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire, qui consiste en poésie à n'employer que certains mots déterminés, à la priver de certains autres, qu'ils soient techniques, médicaux, populaires ou argotiques, me fait penser au prestige du rince-doigt et du besme. Ce n'est pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le besme-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. la pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Beethoven était sourd. Il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. Rutebeuf avait faim. Villon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique. Et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux, la publicité, la clientèle. Qui donc inventera le désespoir? Avec nos avions qui damnent le pion au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues. Avec nos âmes en rade au milieu des rues. Nous sommes au bord du vide, ficelés dans nos paquets de viande, à regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vers doit faire l'amour dans la tête des populations. À l'école de la poésie, on n'apprend pas.
En cette année 2023, nous fêtons les 50 ans d'un album qui compte énormément pour moi. D'ailleurs, lors de la nuit que nous avions consacrée à Léo, à l'occasion des 30 ans de la disparition de Léo, l'un des invités lors de cet entretien, émission d'ailleurs plus qu'entretien, m'avait dit « Mais est-ce qu'il compte vraiment à ce point-là pour toi cet album? Est-ce que c'est pas quand même l'opéra du pauvre avant tout le reste ?» Je sais pas. Et je crois que je suis encore en train de me poser la question. L'album dont nous fêtons les 50 ans cette année, c'est « Il n'y a plus rien ». Il n'y a plus rien, avec des textes qui, à mes yeux et dans mon cœur, parce que là ça parle à l'esprit et au cœur, sont absolument essentiels. Et cet invité avec qui j'avais échangé ces quelques mots, c'est Alaric Perrollier. Alaric Perrollier, que j'ai le grand plaisir de retrouver ce soir pour parler de cet album ensemble. Bonsoir Alaric.
Bonsoir à vous.
Comment vas-tu?
Écoute, ça va, malgré la pluie, la grisaille. Le climat exaspéré de ce pays.
Le temps d'automne est aussi bien dans les nuages, dans l'extérieur que dans les esprits. On est en automne, ouais, clairement. Alors, je t'ai convié ce soir pour que nous parlions un peu de cet album, Il n'y a plus rien, qui, à mes yeux, est essentiel. Et je pense que c'est un album qui fédère énormément les amateurs et amatrices de Léo. C'est un album qui revient souvent lors des entretiens que j'ai menés depuis maintenant 6 ans qu'existe cette émission. L'album Il n'y a plus rien est très régulièrement revenu dans le propos de celles et ceux que j'interrogeais au sujet des albums ou des chansons qu'ils apprécient particulièrement chez Léo. Donc ce soir, il est évident que je tenais à rendre hommage à cet album. On va donc en faire une présentation assez exhaustive, assez complète. Je voudrais qu'on commence, comme nous avions procédé pour Amour Anarchie, que tu nous resitues un peu où en est Léo au moment où arrive 1973 et donc la conception et la création d'Il n'y a plus rien.
Alors,
dans son parcours créatif, hein, bien sûr, ou personnel, si
ça joue. La conception et l'enregistrement, la fabrication d'Il n'y a plus rien date de 72, de l'hiver 72, et c'est publié en 73.
D'accord, donc voilà.
Premier, je sais, on n'a pas la date exacte, je ne sais pas, ça c'est une imprécision de nos connaissances. Premier trimestre, premier semestre de l'apparition de Il n'y a plus rien. Donc, en 72, bah, ça fait déjà 4 ans que a eu lieu mai 68, peu ou prou. Et bon, bah, Léo a pu vivre le désenchantement. Alors, c'est un désenchantement politique qui ne date pas de 72, qui est très rapide en fait, hein, qui date, on va dire. Je pense qu'il prend conscience du fait que c'est râpé vers très vite, 70, 71, mais le temps que ça se transforme en texte et que ces textes soient enregistrés sur des albums, il y a une sorte de latence. Et j'essaye de me remémorer les texte annonciateur, parce qu'en fait, il y a de la désillusion, qui incarne beaucoup cet album, en fait. C'est un album qui est ouvert par une chanson, on va dire, un manifeste esthétique, mais qui est aussi politique, qui s'appelle Préface, dont on va pouvoir parler plus en détail après, et qui se termine évidemment par un des morceaux, je dirais, emblématiques de Léo Ferré, un de ses sommets, qui est Il n'y a plus rien, et qui évidemment n'est pas grand public, n'est pas connu du grand public, mais dès que les gens, en fait, tu parlais de beaucoup de gens ont été marqués par cet album, c'est un album qui a la particularité de n'avoir que 6 titres, c'était jamais le cas avant. Bon, après il fera fin 73 et basta, où il n'y a que 2 titres, mais bon, c'est très particulier. Là, ce sont quand même malgré tout des chansons, des morceaux, un florilège, enfin un rassemblement de morceaux qu'il a sur l'établi. Et il n'y en a que 6, il n'y en a que 6 parce que évidemment, bon, Léo, ses contraintes étaient simples, il minutait ce qu'il faisait, et puis ensuite, après, il était contraint physiquement par la durée des faces de vinyle, donc 20 minutes sur chaque face. Et donc, Il n'y a plus rien est un morceau qui fait 16 ou 17 minutes, je ne sais plus exactement, dans son enregistrement à lui, parce que je mélange un peu avec les versions... live, public, oui. Mais sur l'album ça doit faire peut-être 17 minutes et donc du coup, évidemment, ça prend quasiment toute une face, donc ça lui fait réduire les titres, surtout que les autres titres sont parfois un petit peu plus longs que des chansons traditionnelles, puisqu'ils font 6-7 minutes. Donc on voit bien que là c'est un Léo qui est dans la continuité du chien, que c'était pas juste un feu de paille, et qu'en fait il continue dans cette voie, et il l'a fait comme on pourrait dire, exploser c'est une sorte de sommet, d'arriver à maturité. Alors que le chien, c'était quelque chose, c'était un surgissement, mais c'était pas forcément, je parle de l'assemblage musique-texte, c'était très jeté. C'était pas forcément quelque chose de très abouti, en fait. Il y avait une sorte de spontanéité, et de comme de crachat, quoi, finalement, avec une idée, voilà, on va faire quelque chose de rock déstructuré. Là, la spécificité de cet album, c'est qu'il est intégralement symphonique. Et donc, évidemment, si on se remet dans l'état d'esprit des fans qui, à l'époque, ne savaient pas où Léo allait aller, ni quoi, de quoi demain allait être fait, qu'est-ce qu'ils avaient vu ? Ils avaient vu en 68, donc, le gros des jeunes, hein, est venu, a découvert Léo à ce moment-là, est venu s'additionner à l'ancien public. Et donc, il y avait un Léo libertaire avec Bobino 69, des petites chansons comme La Révolution, L'été 68, comment ça s'appelle, Comme une fille, et évidemment, les emblèmes qui étaient les anarchistes, ni Dieu ni maître. Et je sais plus, dans la Bobino 69, il chante pas la Marseillaise, il le chantait un peu avant, chanson antimilitariste de 67. Là, en fait, après, très vite, donc en 70, il y a cette espèce de poussée de sève de libertaire et sensuelle, érotique et politique de Amour Anarchie, dont on a parlé, donc on vous renvoie à l'émission qu'on avait faite. Et donc là, on peut, évidemment, quand on écoute ça, on sent un Léo Ferré conquérant. On ne se dit pas, on ne sent pas un Léo Ferré désillusionné. Mais Léo dira un peu plus tard, mais il dira bon bah je fais semblant, enfin je continue parce que moi je n'y crois plus individuellement, mais je le fais pour les jeunes, pour mon public, et parce que je pense que en se créant cet horizon désirable pour lui-même, ça le prémunissait du silence, en fait, d'être perdu dans de perdre sa voix. Il y avait comme un débouché à son art. Ça avait du sens, ça faisait sens pour lui d'écrire en écrivant pour des gens qui peut-être pouvaient changer les choses. Je parle de son écriture, de son style de l'invective, qui va raffiner justement et qui trouve un optimum dans Il n'y a plus rien. Et bien qu'il y ait des chansons chantées, c'est un album qui peut plaire à différents types de publics, parce qu'il y a des belles chansons d'amitié, de mélancolie, très douces, avec des belles mélodies. Et il y a évidemment l'optimum du ce qu'on appelle le spoken word. Donc c'est plus du chanté parlé, c'est pas vraiment du chanté parlé. Le spoken word, c'est une notion qui est née, on va dire, dans la sphère des noirs américains musiciens d'Harlem. Bon, on pense aux Last Poets, hein, 69, mm-hmm. Gilles Scott-Heron aussi. Donc c'est quand même des gens qui sont dans une approche de texte déclamé, accompagné, alors c'est assez âpre, Last Poet, avec c'est très minimal, avec des percussions, tout ça. Bon, Gilles Scott-Heron, au fur et à mesure, après, va aller vers un groove instrumenté très soyeux, très agréable, très avec une influence forte du jazz. Dans les années 70, l'idiome un peu à la mode et dominant, c'est le funk. Tout ça pour dire que Léo, lui, va aussi déclamer, mais on sent qu'il cherche un petit peu ce style de l'invective, ce que j'appelle le spoken word, c'est-à-dire une façon de dire le texte sur un rythme qui n'est pas scandé, comme ce que fera le rap plus tard, sur un rythme qui n'est pas exactement celui de la conversation qu'on pourrait avoir dans le slam, encore que le slam parfois est assez projeté, est assez spectaculaire, mais c'est plus parfois parler comme je parle à quelqu'un qui est à côté de moi. Dans le spoken word, il y a quand même quelque chose d'assez discursif, dans le sens où là, je suis un peu sans filet, j'ai pas révisé ces notions, donc j'essaye de c'est pour ça que je suis un peu circonvolutif, j'essaye de rassembler mes idées en parlant. Peu importe, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Léo écrit en 62 un texte qui s'appelle Le Style, où il explique justement qu'il cherche ce fameux style de l'invective. C'est une sorte de texte un peu théorique où on rentre un petit peu dans la fabrique du poète, et on sent qu'il cherche quelque chose. Et évidemment, il parle du style de l'écriture, mais ça s'applique tout à fait, en fait, puisque sa problématique est toujours que le mot ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, comme il le dit dans préface, justement. Et donc, du coup, ça a valeur de manifeste, donc le fait qu'il reprenne ce morceau en ouverture de cet album Il n'y a plus rien. Comme si, en fait, je saute, en fait, il y a des tentatives, il y a des choses qui se passent dans les années 60, et puis on a le chien, où on dit, ah, le chien, morceau, où pour la première fois, il dit le texte, et il le dit d'une manière qui fait que, en fait, l'accompagnement derrière est improvisé, semi-improvisé, il y a des cellules mélodiques qui se répètent, le rythme est complètement déstructuré, et Léo dit son texte. Ensuite, l'album d'après, il fait La Solitude, qui est vraiment un nouveau pas dans le... C'est pas le chanté-parlé, parce que c'est pas chanté, justement. Ouais. Nous, on avait l'expression du chanté-parlé que Léo explore un peu avec les poètes. Hein. Et on est à la lisière, on sent qu'il tâtonne. Et en fait, dans le spoken word, c'est une sorte... ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même eu une sorte de... Alors qu'il y avait des gens qui disaient des poésies, personne ne faisait ça avec une musique aussi travaillée, derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on a une musique comme si c'était une chanson, mais au lieu de chanter, la voix parle, et évidemment avec la richesse d'intonation qui est celle de Léo, qui encode chaque mot différent et qui n'a pas tout le temps le même rythme, qui peut s'accélérer, enfler, murmurer, redescendre. Et après, l'étape d'après, il y a quelque chose d'intermédiaire, mais qui rentre pas dans notre... parce que c'est un ressurgissement du passé avec le mal-aimé, ça n'entre pas dans cette évolution-là. Et quand il revient à ses projets du jour, il a en fait plein de chansons dispo, quoi. Il peut faire plein de choses. Bon, et ça va passer par plusieurs étapes. Je pense que Léo, à ce moment-là, faut pas grossir l'influence de la pop anglo-américaine sur lui, mais il l'a dit. Ça a été alors en fait, si tu veux, l'impression que j'ai, c'est que les gens qui connaissent pas trop Léo, qui veulent rentrer dans Léo, comme en fait ils se sont formés à l'écoute des grands albums classiques rock, on va dire, si voilà, ils s'intéressent au passé, ils ont une sensibilité liée au rock. Et donc du coup, souvent les albums qui viennent en premier, c'est La Solitude, parce que c'est une porte d'entrée. Et éventuellement, oui, Amour Anarchie, l'album de 69, là, l'été 68, et parce que y a cet extra qui est quand même un truc un peu pop. Et puis, Il n'y a plus rien, qui n'est pas du tout rock, mais qui l'est, si on veut, par l'esprit. Et ce que je voulais dire, c'est que, on a dit, donc en fait, souvent, il y a des gens qui disent, ah oui, Léo, il a fait des choses avec Hendrix. Les commentateurs, parce que c'est leur culture, essayent de ramener vers leur culture Léo pour se l'approprier, mais en toute bonne foi, pour le digérer.
Le rendre accessible, éventuellement,
accessible,
à l'oreille qui est formatée
c'est
à ce moment-là.
C'est une manière de dire, ah mais en fait, Léo, c'est cool. Bon. Donc peut-être il y a une petite exagération sur l'influence de la pop qu'il écoutait. Enfin, je pense qu'il écoutait ça, mais qu'en fait, fondamentalement, au fond de lui, Léo est un classique. Et cet album en est la preuve, puisque c'est un album qui, de A à Z, est symphonique. Et c'était pas le cas des albums précédents. Il faut savoir qu'on le sait, que Amour Anarchie, c'était encore arrangé par Defy, et que Après, il y a cette espèce d'intermède avec les zoos, ou sur lequel je me suis exprimé, je ne sais plus si c'était à ton micro ou dans mes textes pour le site des éditions La Mémoire à la Mer. Bon, c'est Marsan qui a un peu poussé Léo dans le dos en lui disant « Mais écoute, ton public, il écoute de la pop, ce serait super. Allez, vas-y, fais un album, ça va cartonner. »
Tu parles de la solitude, là, en l'espèce.
La solitude, ouais. Et donc, Léo a dit « Bon, ok, ok. » On fait ça. Et il a écrit un peu un corpus, sachant qu'il allait recollaborer avec les Zoos. Et donc c'est La Solitude qui, pour moi, est un album un peu bancal, un album un peu de transition, qui ajourne en fait ce que Léo veut vraiment faire après Amour ouais. Anarchie. Parce qu'après Amour Anarchie, si Léo se sépare de Defaille, c'est un choix de sa part. Et c'est pas pour refaire du Defaille ou aller devenir un rocker. Hein, Léo, c'est pas un rocker. Donc du coup, c'est dès 70, je pense, la fin 70, début 71, il a l'intention d'aller vers des choses plus symphoniques.
Et, ouais, et de laisser s'exprimer le musicien qu'il est.
C'est ça, parce que oui, alors bon, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, parce que j'ai l'impression qu'on l'a tellement dit que tout le monde le sait, mais Léo s'est toujours vécu comme un musicien avant tout. Il revendiquait le titre de poète aussi, je pense qu'il avait conscience de son talent dans ce domaine, mais initialement, quand il était petit, il n'écrivait pas des poésies. Par contre, il dirigeait des orchestres fantômes sur le rempart de Monaco. Donc, c'est quelqu'un qui avait une sorte d'élan, d'appétence pour la musique, spontanée, viscérale, c'était en lui. Il a expliqué qu'il s'était caché de ça, puisqu'en fait, il a découvert que les autres n'étaient pas comme lui, et il était dans un milieu qui n'était pas très favorable à la culture et aux artistes, parce qu'il avait un oncle un peu dilettante, qui était dessinateur caricaturiste, bon, un peu branleur, je pense qu'il était dans un milieu petit bourgeois, où il faut être sérieux, quoi, et raisonnable, et on fait pas les poètes, quoi.
Voilà, ouais, on fait Sciences Po, quoi.
On fait Sciences Po. Et donc, Léo... C'est tout le paradoxe de Léo, c'est que Léo, c'est un fort en gueule, et en même temps, c'est quelqu'un qui... En tout cas, quand on est un enfant, on peut être un enfant révolté, on peut dire merde à ses parents, mais pas tout à fait quand même, on est sous la férule de son père ou de sa mère. Et Léo l'a été très longtemps, jusqu'à sa majorité, 21 ans, et puis peut-être même un peu après. Et il raconte cette histoire là des congés payés, quand son père vient lui taper sur l'épaule alors qu'il danse avec une fille... Tu la connais celle-là ?
Non.
Bah, en fait, il est dans un bal populaire, il danse avec une nana, il essaie de draguer, et là, il prend conscience, et en 36. Enfin, je suis plus 36 ou après, tu vois, 36, 37, 38. Et il lui dit, ah, vous venez ici, mademoiselle, nan, nan, et en fait, elle lui dit, bah oui, mais je suis congé payé. Et là, il a pris conscience de ce à côté de quoi il était passé. Hein, le Front Populaire, ça lui est passé complètement à côté. Il était vraiment dans ses trucs de poète, travailler son piano à ce moment-là. Il est jeune, il est à Paris, il va au cinéma, il essaye de draguer des filles. La politique, ça ne l'intéresse pas. Et là, il se dit « Ah ouais, d'accord, c'est ça le Front Populaire. Les acquis sociaux et le fait qu'il puisse y avoir des congés payés, il y a des meufs qui descendent dans le sud, c'est cool !»
Et alors, je veux en venir là, j'avais 22 ans et tout d'un coup, j'ai dansé avec cette fille en lui parlant de la lune, du beau temps, des conneries, quoi. J'entends sur moi quelqu'un qui tape sur mon épaule comme ça. On entend tac, tac. Je me retourne, c'était mon père. J'avais 22 ans. Et j'entends mon père qui me regarde, qui me parle pas, qui me fait chut, avec le doigt comme ça, montant la direction de la maison. Et j'ai suivi mon père. J'ai laissé la fille là. Je m'en voudrais toute ma vie d'avoir fait ça. Mais j'ai appris quelque chose. J'avais demandé à cette fille en lui disant « Tu viens à Monaco comme ça l'été ?» Elle me dit « Oui, je suis congé payé. » Et j'ai tout compris. Et j'ai salué. Je salue encore Léon Blum et son gouvernement. Et Léon Blum, c'est lui. Sans lui, ça a été le premier... Le seul, il y a eu un an de gouvernement de gauche en France depuis la Révolution française. Un an, c'est tout. Léon Blum. Et le reste, c'est de la marmaille qui s'habille un habit pour se donner des airs. Et voilà, ça me fait pleurer quand je pense à tout ça parce que il y a tout de même des gens bien, mais les gens bien on les enterre, n'est-ce pas? Dès qu'on peut, trac, n'est-ce pas? Voilà. C'est dégueulasse, faut bien le dire, quoi.
Ses mains bonnes à tout, même à tenir des armes dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien, ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder, et pour t'en empêcher les mains de l'oppression. Regarde-la gémir sur la gueule des gens, avec les yeux fardés d'horreurs et de rêves. Regarde-la se taire aux gorges du printemps, avec les mains trahies par la faim qui se lève. Ses yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes, et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde-la pointer son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe. Regarde-la jouir dans ce jouet d'enfant et qui tue des fantômes en perdant ta jeunesse. Ces lois qui t'embarrassent au point de les nier dans les couloirs glacés de la nuit conseillère, et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira lorsque tu casseras les lois de l'oppression. Regarde-la flâner dans l'œil de tes copains, sous le couvert joyeux de soleil fraternel. Regarde-la glisser peu à peu dans leurs mains, qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. Tes yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes, et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes. Et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression.
Avec Alaric Perrollier aujourd'hui, nous fêtons les 50 ans de l'album Il n'y a plus rien.
Si je reprends le contexte d'Avou en quelques mots, il y a une continuité depuis 68 et depuis Amour Anarchie de vouloir enfoncer le clou. Et donc, évidemment, Léo, il est dans une démarche avec cet album de se surpasser. C'est ok, j'ai fait le chien, ok, j'ai fait Amour Anarchie. Bon, il y a eu cette espèce de parenthèse, on va dire, qu'est la solitude. J'ai fait, pour des raisons très précises que je ne développerai pas ici, j'ai réenregistré mon album de jeunesse, mon grand œuvre de jeunesse sur l'oratorio du Mal-aimé de Guillaume Apollinaire.
Et une parenthèse aussi.
Bon, et là, enfin, j'arrive fin 72. Donc le temps passe, parce que je fais des tournées, je suis demandé partout dans toutes les grandes villes étudiantes de France et de Navarre.
Au Canada notamment, à Québec aussi.
Il va au Canada aussi, ouais. Et donc il se retrouve, si tu veux, il doit préparer tout son nouveau, parce que Léo c'était quelqu'un qui aimait pas trop se répéter et qui aimait bien apporter des nouvelles chansons à chaque nouvelle rentrée. Et donc sa rentrée, c'est la rentrée, quand il a rentré chaque année les artistes, c'est comme la rentrée des écoliers, c'est en septembre, octobre, et ce qu'on appelle la rentrée des artistes, et bah, c'est qu'il va passer, il est programmé dans un théâtre parisien. C'est là où se font et se défont les gloires, quelque part. Hein. Même si c'était une période faste pour les albums, les années 60 et 70, c'est maintenant qu'on chronique les albums qui sortent, alors qu'ils ne se vendent plus du tout. Avant, on chroniquait les spectacles. Et on D'accord. commençait un petit peu, certains magazines spécialisés commençaient à chroniquer les albums dès les années 60. Mais ça restait minoritaire. Tous les grands journaux, ils avaient une rubrique spectacle. Quand la copine, enfin pas la copine, c'était pas vraiment la copine, mais Claude Sarraute, la fille de Nathalie Sarraute, qui a défendu Léo assez depuis l'Alhambra, je pense. Elle écrit pas sur lui dans Le Monde dans les années 50. Peut-être qu'elle n'était pas à la rubrique spectacle, mais après c'est une des journalistes qui a vraiment dit des choses intelligentes sur lui, tout en ayant la bonne distance, en étant assez objective, en n'étant pas béate d'admiration et en n'étant pas non plus outrageuse. Enfin, on sent qu'elle admire beaucoup ce que fait Léo, mais qu'elle n'oblitère pas son sens critique pour autant. Donc ça fait partie, il y en a quelques autres, Michel Pérez par exemple, qui écrit des choses intelligentes. Sinon c'est beaucoup de la mauvaise foi ou alors de la béatitude. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Léo produit des réactions tranchées encore aujourd'hui. Et donc du coup, je fais encore une digression, mais c'est pour dire qu'il fait sa rentrée à l'Olympia. Gros événement, parce que il était passé à l'Olympia. Alors, il y a eu un accompagnement de la parenthèse avec les Zoos. Il y avait une émission sur Europe 1 qui s'appelait Musicorama, et ça s'était enregistré en live et c'était diffusé sur Europe 1. Et donc, du coup, ça se passait à l'Olympia. Donc, il a fait un petit truc enregistré comme ça, comme en 65, par exemple, il avait accepté de retourner à l'Alhambra pour une émission, je sais plus si c'était sur Europe 1 ou pas, je crois que oui. Mais alors qu'en fait, il était plus du tout copain avec Breteau, qui était la chef, la grande patronne de l'Alhambra. Il s'était pris la tête et c'est pour ça qu'il retourne pas à l'Alhambra après. Hein. Il fait l'Alhambra deux fois en 61. Après, il va à l'ABC. Il est producteur lui-même. Enfin, c'est des questions de fric, de machin.
D'accord.
Bon, il s'était mis à dos. Il s'était pas compris. Enfin, ça n'allait pas. Ça avait démarré comme une histoire d'amour et ça a mal fini. Cocatrix, c'est un peu pareil. Cocatrix, c'est le mec qui reprend l'Olympia. Alors l'Olympia, tout le monde connaît l'Olympia parce que c'est le seul musical qui a survécu de tous. Bon, de chansons d'après-guerre. C'est une vieille salle qui a eu plusieurs usages. Et en 54, je crois. Oui, 54. Léo est parmi les premiers à y passer. C'est pas le premier, mais il y a juste avant lui, il y a Becco. Qui va lancer la salle parce qu'il va y avoir un succès de scandale où le public va être complètement déchaîné, il va arracher les sièges. C'est un peu un proto Johnny Hallyday, Gilbert Becco, qui fait pas du rock mais qui déchaîne les passions juvéniles. Et Léo passe derrière ça. Alors évidemment, c'est pas le même genre de succès. Et donc c'était un peu en demi-teinte mais quand même suffisamment convaincant. Et il repasse en vedette, vraiment tête d'affiche en 55. Et ça donne lieu à la captation du premier album live de Léo, récital à l'Olympia. Et donc là, on ne sait pas trop. Dans la chronologie, moi, c'est pas très clair. À quel moment il se fâche vraiment avec Cocatrix ? Je pense qu'il ne se fâche. En tout cas, il y a quelques années qui passent. Il y a une sorte de déception. Mais Léo est programmé ensuite à Bobino à un moment où je crois que Bobino dépend encore de Cocatrix. Parce que Cocatrix a eu une sorte de stratégie d'expansion. Et puis, dans ce milieu-là, ils se rachètent les uns les autres. En tout cas, c'est fin des années 50, début des années 60. Je crois que Cocatrix dit des méchancetés dans les journaux, il s'envoie des méchancetés, des noms d'oiseaux par journaux interposés.
À propos de Léo ?
À propos de Léo, Cocatrix aurait dit que Léo, c'est bien sympathique pour trois chansons, mais ça remplit pas les salles.
D'accord.
Et donc, il lui avait fait une mauvaise publicité. Et Léo, qui n'arrivait pas totalement à passer au statut de véritable vedette, qui était connu, identifié, mais un peu, avait pas encore atteint le grand public, comme on dit, eh bien, ça l'avait heurté. Il s'était dit, mais quel con de me savonner la planche comme ça. Personne va me prendre après. Moi, j'ai besoin de passer dans des salles. Bon. Et donc, du coup, il avait dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, moi, ce mec, je ne passerai plus jamais. Et, il faut savoir que Cocatrix, ça c'est Alain Remaker qui nous l'apprend dans un des livrets de l'intégrale, je crois que c'est dans L'Âge d'or, le deuxième volume, l'intégrale consacrée à Léo Ferré. Je crois que, oui, moi je ne le savais pas, ça, tu vois, je l'ai appris par le biais d'Alain. Cocatrix lui fait les yeux doux pour passer dans l'Olympia après le succès de l'Alhambra, parce qu'il se dit, ah bah quand même, bah, maintenant ça marche, bon bah alors allez Léo. Et l'autre lui a fait un gros bras d'honneur. Il dit non, mais tu rêves ou quoi? Plus jamais je passe chez toi, c'est fini mon gars.
Et pourtant il y revient en 72.
Et donc il y revient en 72. Bon, il revient en 72. Il a toujours pas enregistré, il n'y a plus rien. C'est sa rentrée là-bas. Et donc ce retour à l'Olympia, pour ce retour à l'Olympia, Léo vient avec plein de nouvelles chansons. Il y a. C'est un récital qui dure 2h30. Et il y a dedans quasiment. Toutes les chansons qui vont figurer sur Il n'y a plus rien, en piano, voix, piano, Paul Castagnier.
Bien sûr.
Toujours son pianiste. Et Tout l'espoir, à l'exception de Je t'aimais bien, tu sais. Et de Marie, qui arrive un peu après. Et du coup, bon, alors, Léo les enregistre. Dans le volume 3 de l'intégrale, La Solitude, on a redécouvert une session, vraisemblablement enregistrée au studio Hoche. Vraisemblablement le soir, la nuit. Je me plais à imaginer que Léo est seul dans le studio et que. Alors, Alain, je vous livre une petite confidence. Alain, qui a entendu les bandes non retravaillées, enfin. Parfois, la bande tourne un petit peu, puis on entend le déclic. Alors, on entend au début un peu, ça se passe. Et puis après la fin de la chanson. Tout ça a été coupé pour faire une expérience de comme quasiment d'album studio.
Ça, voilà. Plus propre, on va dire, entre guillemets.
Voilà. Et il m'a dit que, parce que je lui ai demandé, je lui ai dit, mais alors déjà, est-ce que l'ordre du disque c'est l'ordre de c'est, il chante tout le contenu de, enfin, une bonne partie du contenu de Il n'y a plus rien et de un peu de l'espoir, je crois.
L'espoir, un peu,
il ouais, chante pas préface, il chante Ne chantez pas la mort, il chante Night and Day, Richard,
oui.
L'oppression, je suis pas sûr qu'il la chante, je me souviens plus.
Si, je crois.
Et il chante Il n'y a plus rien. Et c'est, en fait, c'est des chansons, je suppose, qui ont été enregistrées, parce qu'il parle un moment et il répond à quelqu'un, et il dit non, je ne suis en train de les orchestrer. Et donc on suppose que c'est à Richard qui se parle, parce que ça a été enregistré à Hoche, Richard était là, forcément.
Ouais, bon.
Et alors on ne sait pas trop pourquoi il a enregistré ses maquettes, si ce n'est pour montrer peut-être à Richard où il en était. Parce que Richard lui demandait, lui disait, mais attends, l'album, tu penses le sortir? Parce que dans la pratique du milieu, ce qui se faisait, c'était d'enregistrer un album et de le vendre au moment où on passait au théâtre, lors du concert. Hein, d'avoir quelque chose à. Comme ça, les gens entendent la version sur scène et ils prennent l'album, ça leur fait un souvenir. D'accord. C'était déjà une pratique qui ça se fait aujourd'hui. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que les artistes arrivent à vendre des disques, plus que. Plus qu'en les vendant dans les grandes surfaces ou chez des disquaires. C'est l'effet souvenir immédiat. Donc déjà, c'était déjà à l'œuvre, ça, dans le métier. Et donc, du coup, Léo n'avait rien pour sa rentrée. Il n'avait pas un album, il n'avait pas eu le temps de... Parce que ça lui demandait plus de temps, évidemment.
Évidemment.
La grande différence, c'est que quand il avait Defaille qui travaillait pour lui...
Il y avait quelqu'un qui orchestrait,
et voilà. C'est-à-dire que Defaille, il recevait les choses, il arrangeait très vite. Vraiment très, je sais plus en combien de temps il faisait les choses. Le seul fois où ça lui a mis vraiment du temps, où il s'est creusé la tête, c'était pour Psaume 151.
D'accord.
C'est une chanson longue qui fait 11 minutes. Il fallait se renouveler, trouver des idées. Bon. Mais sinon, il allait très vite. Et il avait un copiste. Le copiste, c'est celui qui va établir sur les partitions ce que va jouer chaque partie.
Bien sûr.
Ce qui fait qu'après, bon, parce qu'ils n'avaient pas d'informatique, hein, donc les gars, il fallait bien qu'il y ait des petites mains qui écrivent.
Donc ça facilite quand même grandement le travail.
Voilà. Alors Léo, je ne pense pas. Léo est à ce moment-là. On connaît tous le Léo qui fait ses travaux d'imprimerie et qui expliquait qu'il fait tout et qu'il emmène ses paquets de partitions dans son coffre et puis il prend sa petite photo et puis il va au studio Rexon à Milan et puis il enregistre et il donne aux musiciens les trucs qu'il a lui-même imprimés. Bon, On a ce Léo-là à présent à l'esprit, mais quand il bosse avec Barclay, je pense qu'il a un copiste. Barclay met à sa disposition, alors je ne sais pas qui est le copiste.
Oui, et puis il n'y a pas de raison.
Mais il faut quand même qu'il y ait ce qu'on appelle le score, c'est-à-dire la partition d'orchestre. Et ensuite, c'est reporté sur des partitions pour chaque instrumentiste. Donc ça demande plus de temps à Léo.
Bien sûr.
Ça demande plus de temps. Et il est assez ambitieux, il prend le temps. Et donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille beaucoup entre les tournées, hein, à l'hôtel, le soir, il orchestre comme ça. C'est pas quelque chose qu'il a bossé, je crois que c'est quelque chose qu'il a plus, ce corpus, il l'a plus ou moins bossé alors qu'il était en transit. Alors, évidemment, le texte et la mélodie, ça a été peut-être travaillé à Castellina, mais après les orchestrations, ça a été fait au fil du temps, comme ça, et il va aboutir les choses sur la fin 2000, qu'est-ce que je raconte, non, sur la fin de l'hiver 72.
Ouais.
Et en novembre, je crois que c'est, je sais plus les dates d'enregistrement, je crois que c'est novembre, décembre. Là, il enregistre. Et le disque paraîtra quelques mois après, en 73. Donc, les gens ont entendu les morceaux sur scène, d'abord, en piano, voix. Et là, ils le découvrent avec la vision de Léo, pour la première fois, où c'est Léo qui est intégralement, comment dirais-je, le... Parce que Léo avait toujours, en travaillant avec Defy, il avait accepté le deal avec Defy... Ça lui convenait, ça lui convenait. Mais s'il arrête de travailler avec lui, c'est parce qu'en fait, je pense qu'il est mu par l'ambition d'être responsable à 100% de sa musique. Et que, personne d'autre n'habille sa musique. Et donc, du coup, que tout le travail d'arrangement, et en l'occurrence d'orchestration, puisque c'est plus un travail d'orchestration, vu que les effectifs impliqués, il voulait en être le chef d'orchestre, si je puis dire. Oui, et d'ailleurs, on voit bien sur la pochette, il y a marqué « Arrangement et direction d'orchestre, Léo Ferré », en gros.
Ouais, clairement.
C'est quelque chose qui tenait à cœur à Léo, parce que Léo, ému par un rêve symphonique, et l'envie de diriger des orchestres, ça depuis longtemps. Et il avait mis tout ça entre parenthèses, c'est quelque chose qu'il a caressé du doigt dans les années 50, il a eu des expériences. Très peu. Qu'il a pu réactiver en réenregistrant la chanson du Mal-Aimé, où là il dirigeait l'orchestre. Et là, c'est pareil, donc en fait, Il n'y a plus rien, c'est le premier album intégralement sous la houlette de Léo, symphonique. Alors qu'il y a eu des chansons un peu symphoniques, il y avait deux chansons un peu symphoniques dans La Solitude. Tu ne dis jamais rien et ton style, qui prenait des musiques tirées vraisemblablement de la bande originale du film faite pour l'Albatros, pour Mocky, qui est un truc où Mocky a n'utilisé que 5 minutes de la musique, ouais. J'en avais parlé à ton micro. Ouais. Et donc, du coup, ça, Léo, il aimait pas, et donc il a repris.
Il y a de quoi.
il a repris et resémantisé différemment les choses. Et là, donc voilà, c'est du matériel nouveau.
En 72, à Olympia. Cosimo t'apporte « Ne chantez pas la mort », c'est un texte.
Oui.
Et tu vas là-dessus, toi, chercher une mélodie. Est-ce que c'est différent comme travail?
Oui, c'est différent comme travail, mais je mets le texte, puis je chante immédiatement, ou je chante pas. Si je chante pas, je fais autre chose, hein, c'est vrai. Et là, Cosimo, ça m'avait frappé tout de suite, mais porté à l'aéroport, j'avais tout de suite trouvé le piano chez Osio Barclay, j'avais fait la musique tout de suite, la chanson, parce que ça me pressait, quoi, parce que c'était fantastique, et je n'ai aucune difficulté, quoi. Après, le gros travail, c'est l'orchestration, parce que c'est long, quoi, parce que je suis un peu un maniaque aussi.
Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide.
Là, je dois ajouter que c'est une chanson que vient de m'envoyer il y a bien des années Jean-Roger Cosimo, avec lequel j'ai souvent travaillé, notamment avec Ostende.
Jette un froid aussitôt qu'il est dit. Les gens du show business vous prédiront le beat. C'est un sujet tabou pour poète maudit. La mort. La mort.
Je la chante et dès lors, miracle des voyelles. mort et la sœur de l'amour. La mort qui nous attend et l'amour qu'on appelle. Si lui ne vient pas, elle viendra toujours. La mort, la mienne n'aura pas, comme dans le Larousse, un squelette, un linceul, dans la main, une faux. Mes filles de 20 ans, à chevelure rouge, en voile de mariée, elle aura ce qu'il faut. La mort, la mort, de grands yeux d'océan, une voix d'ingénieur, un sourire d'enfant sur des lèvres carmin. Douce, elle apaisera sur sa poitrine nue ma gueule en parchemin. La mort, la mort, requiem de Mozart et non dans ce macabre. Pauvre valse musette au musée de Saint-Saëns. La mort, c'est la beauté, c'est l'éclair vif du sabre, c'est le doux pain total de l'esprit et des sens. N'allez pas confondre et les faits et la cause. La mort est délivrance, elle sait que le temps quotidiennement nous vole quelque chose. La poignée de cheveux et les voir dedans. La mort, la mort, elle est euthanasie, la suprême infirmière. Elle survient à temps pour arrêter ce jeu. Près du soldat blessé dans la boue des rizières, chez le vieillard glacé, dans la chambre sans feu. la mort. La mort. Le temps, c'est le tic-tac monstrueux de la montre. La mort, c'est l'infini dans son éternité. Mais qu'advient-il de ceux qui vont à sa rencontre? Comment gagne sa vie? Où faut-il mériter? La mort. La mort. La mort.
Déjà, tu veux me dire quoi là?
Série Club.
Série Club, la radio libertaire, voilà.
Donc l'enregistrement se fait dans les studios Barclay, donc au studio Hoche, c'est ça? Studio Hoche de Barclay.
Dans le jargon, en fait c'est le studio Barclay, mais dans le jargon des musiciens, souvent ils appelaient les studios d'après la rue où se trouvaient les studios. Donc c'était rue Hoche, près des Champs-Élysées.
D'accord. Donc voilà, il se fait là. Peut-être dire, tiens, ce qu'on ne fait jamais, mais qui n'est pas inutile à faire, que les responsables de la prise de son sont Claude Achalet, Charles Rochko, et qu'ils sont assistés par Philippe Omnes, c'est mentionné sur la pochette. Alors pourquoi ne pas citer le nom de ces techniciens? Tu as quelque chose à dire à leur sujet?
Alors, c'est pas le premier album où il y a des crédits. Je crois que pour le premier volume de Amour Anarchie, tu avais aussi, ça avait été bien fait, le deuxième était plus expéditif, mais le premier, il y avait vraiment des crédits assez détaillés. Je crois pas que c'était le cas pour l'album de 69, qui sans doute, dont la pochette sans doute a été faite un peu vite, et puis bon, Marsan venait d'arriver, donc ça a été fait un peu comme ça. Et la pochette avait été vraiment chiadée pour le Bobino 69, très ratée pour le remake des premières chansons, et puis assez chiadée sur le premier Amour Anarchie. Et je pense que c'est pas forcément la volonté de Marsan que de dire ah bah non, il faut être plus précis, il faut créditer les gens qui fabriquent la musique.
Ça correspond à quoi?
Je pense que c'est l'époque, quoi. C'est les usages du métier qui changent, et ça devient à partir des années 70 plus précis.
Bah c'est pas plus mal.
C'est pas plus mal.
Enfin moi je trouve que c'est pas
dans les années 60, c'était vraiment il n'était crédité que en fait l'arrangeur.
D'accord.
Et bon, les auteurs des textes et des musiques des chansons.
Et là, en l'espèce, bon, donc, il joue un rôle important.
Pour te dire, Claude Achalet, en fait, c'est intéressant parce que je crois que c'est lui qui enregistre les chansons avec Zou dans La Solitude.
D'accord.
Alors là, il n'enregistre pas le grand orchestre. C'est un type, je me souviens plus trop d'où il vient, c'est pas un gars de la première génération du studio Barclay, il est plus jeune que Lehner, Gerhard Lehner, qui est le grand directeur du studio, le créateur, le concepteur sonore du studio, qui l'a conçu pour Barclay, qui est un Allemand, comme son nom l'indique, et qui, a enregistré tous les disques faits avec Defy. Donc en fait, tous les hauts dans les années 60 jusqu'à Amour Anarchie, c'est enregistré par Lehner.
D'accord.
Donc vraiment un très bon ingénieur du son, et qui a formé beaucoup des ingénieurs du son qui ensuite, les différentes générations d'ingénieurs du son qui ont bossé au studio Barclay.
Donc Achalet.
Après, j'ai pas d'autre grand chose à dire. Son assistant, ses assistants, je ne les connais pas.
Mais c'était pour les citer, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je fais rarement. Or, ils sont intervenus et ils jouent un rôle important quand même, mine de rien, même si c'est très technique. Ça reste quand même un rôle assez important. Peut-être énumérer rapidement les titres qui composent cet album « Il n'y a plus rien ». Il y a tout d'abord « Préface », et c'est suivi ensuite de « Ne chantez pas la mort », qui est le seul texte qui n'est pas signé intégralement de Léo, puisque les paroles sont de Jean-Roger Cossimon. Il y a ensuite « Night and Day »,« Richard », qui sont deux chansons moi qui me tiennent particulièrement à cœur, moi qui suis un grand nuiteux, et qui sont des chansons quand même vraiment de nuit, pour le coup. Et ensuite « L'oppression », qui est vraiment un des tubes de l'émission, il faut bien le dire, et l'album se termine, comme tu le disais, par « Il n'y a plus rien, qui donne son nom à l'album. Est-ce que tu as des choses à dire sur chacune des chansons? On va aller assez rapidement, mais on va commencer par Préface, qui est une version, on va dire, condensée d'une préface que Léo a écrite pour autre chose.
Eh ben oui, comme son nom l'indique, c'est un texte découpé dans un texte beaucoup plus long qui était une préface, la préface que Léo s'est faite à lui-même dans son premier recueil de poésie Poète vos papiers, paru chez la Table Ronde en 57, début 57. Et donc du coup c'est un texte où en fait il parle beaucoup de la poésie contemporaine. Il s'en prend un peu aux surréalistes, hein, qui lui en voudront, mais pas que, sur un certain état de la poésie et du monde des lettres, et il défend une certaine position de l'artiste, en fait, et la sienne, quoi, et de sa conception de la poésie. Et c'est une conception, effectivement, qui se trouve ici un peu quintessentiée, un peu résumée. Donc c'est court, c'est un morceau qui fait 3 minutes, et c'est un morceau qui est parlé, sur un rythme très saccadé militaire, assez, on peut dire, ouais, assez coup de poing, assez agressif. Hein, okay. Moi, c'est une chanson que je vais un peu introduire un peu de subjectivité.
Si mais je t'en
me
prie.
Le permets,
bah, avec plaisir.
On peut pas tout le temps analyser tout. Non, mais c'est une chanson que j'ai vraiment immédiatement adorée quand j'ai découvert, que j'aimais beaucoup beaucoup et qui m'a un peu quitté. Quitté. C'est une chanson que j'aime pas trop réécouter. Parce que c'est un discours. C'est un peu un discours, quoi. Mais un discours qui. Comment dirais-je, qui manque un peu de mystère. Et du coup, je trouve que la chanson ne dit pas tellement autre chose que ce qu'elle dit. Ce qui c'est pas trop le cas. Par exemple, Night and Day, c'est assez opaque. Il y a des images frappantes. Moi, j'aime beaucoup Night and Day. Hein. Je pense que c'est ma chanson... mes chansons préférées parmi... allez, je vends la mèche parmi les six, là. Moi, absolument, je sauve Night and Day, Richard, et il n'y a plus rien. Je suis un peu moins fan de L'Oppression, qui est une belle chanson. Mais je préfère Night and Day. Et Richard, et il n'y a plus rien. Et dans Préface, si tu veux, je trouve que il n'y a plus rien. Bon, évidemment, c'est plus long, le texte est plus long, c'est plus tortueux, c'est plus labyrinthique. Dans Préface, c'est extrêmement direct, c'est un uppercut, donc c'est extrêmement efficace. C'est une profession de foi, donc c'est très bien, c'est parfait comme introduction.
C'est des coups un peu secs, un peu punché, quoi.
Ouais, c'est ça. Mmh. Donc, il fait passer un certain nombre d'idées sur sa conception de la poésie. Et il défend, évidemment, l'idée que la poésie doit être musicalisée et dite. C'est la grande idée. Et d'ailleurs, quand il la reprendra, il continuera de la mettre, par exemple, je sais plus si c'est en introduction. Enfin, c'est dans son concert au Palais des Congrès en 75, il joue Préface.
Ah oui, tout à fait.
Et à la fin, il dit... ce vers, à l'école de la poésie, on n'apprend pas, on se bat.
Ouais.
Et là, il rajoute, en 75, il dit à l'école de la poésie et de la musique, on n'apprend pas et on se bat. Parce qu'évidemment, il défend aussi son geste artistique au niveau musical, qui est en l'occurrence de diriger un orchestre, de chanter en même temps, d'être un chanteur de variété qui peut diriger des œuvres du répertoire classique. Évidemment, il se heurte à un mur d'incompréhension et de dénigrement. Et donc, du coup, cette chanson est une manière de dire « Eh ben, voilà ce que je vais faire. » Et évidemment, toujours avec ce petit côté « Et je vous emmerde. »
Ouais, bien sûr.
Donc, pas elle est parfaite en introduction,
Attends,
je la réécoute pas trop.
Je t'interromps. Est-ce qu'il ne l'interrompt pas au moment où il dit Beethoven était sourd et il enchaîne avec Coriolan ou avec Egmont?
Oui, exact.
Je crois.
Et ce qui lui a été reproché.
Ouais, voilà. Et il reprend après, il termine après Coriolan, je crois. Ne chantez pas la mort.
Chantez pas la mort, c'est un peu étonnant parce que là, on est sur du Ferré qui veut se poser comme étant le grand maestro. Poète et seul maître à bord.
De l'ensemble de sa
voilà,
création.
Et
quoi.
Il propose une chanson dont le texte n'est pas de lui.
Ouais.
Alors, c'est un peu. Je vais pas rentrer dans les détails, mais disons que cette chanson a été soumise à Léo par Jean Roger. Mmh. Donc, Jean Roger Cossimon, c'est un ami de longue date. Je pense qu'il s'était un petit peu éloigné dans les années 60. Je pense que Jean Roger Cossimon n'est pas vraiment beaucoup venu dans le Lot. peu sont venus dans le Lot. Hein. C'était un peu mortifère cette affaire, mais bon, passons. Donc, ils ont peut-être un peu renoué. Faudrait que je revérifie. Je ne sais plus si. Je ne sais pas, parce que dans leur vie privée, peut-être qu'ils avaient renoué, mais Léo commençait à vivre en Italie à partir de 69, 70. Je ne sais pas si Cosimon, à ce moment-là, était allé le voir. J'ai l'impression qu'il y a eu une distance de la vie qui a été prise. Et, parce que Léo a beaucoup chanté du Cosimon à ses débuts. Ils se fréquentaient à Paris dans les années 50. Et puis, il y a eu une sorte de grosse. Comment dirais-je, de collaboration un petit peu dans les années, 57, 58, et puis un peu le début des années 60.
Avec Mon Camarade, notamment. Alors,
ça commence, ouais, Mon Camarade, Mon Sébasto, que j'adore. Et puis après, Nous Deux, voilà, jusqu'en 61. Après, ça se tasse, et on a l'impression que là, il va y avoir un revival Cosimon chez Ferré. Cosimon, entre-temps, a franchi le pas. Et a fait ce qu'il voulait faire depuis longtemps, mais n'osait pas, parce que c'est un grand timide, Cosimon. Poussé par un homme de bonne volonté qui était Barou, qui a créé le label Sarava, qui lui dit, mais Jean-Roger, moi j'aime beaucoup ce que vous faites, et il faut que vous enregistriez absolument. Allez,
par lui-même, quoi, se mettre à chanter lui-même.
Et voilà, et donc il a enregistré un ou deux albums à ce moment-là, en 72, Cosimon. Et donc de ses textes, dont des chansons que Léo a mis en musique. C'est intéressant de comparer. Bon, c'est un moins grand chanteur que Léo, mais c'est un super parolier, Cosimon. En fait, moi j'ai toujours pensé que Cosimon, moi je fais une digression, non, je ne fais pas une digression sur Cosimon, je m'abstiens. Non, mais sinon on n'en finira pas, d'avoue. Je sais que toi, t'es bon client. Mais...
Sur Cosimon, oui, j'aime beaucoup, donc tu peux y aller.
Faudra qu'on fasse une émission sur Cosimon, si tu veux.
Avec plaisir.
Bon, tout ça pour dire que je pense qu'il lui apporte ce texte, Léo le met immédiatement en musique, et d'ailleurs, lors de la première, il le chante. On connaît l'anecdote, Cosimon est au premier rang, il lui souffle le truc, il a le texte, de peur qu'il se trompe. Bon. Et par geste d'amitié pour son ami Jean-Roger, je pense que Léo va péter un peu sa tracklist de ce qu'il voulait faire au départ pour Il n'y a plus rien. Je rentre pas dans le détail, mais il y a eu plusieurs projets. C'est ça que je voulais dire, c'est que on a parlé de l'influence de la pop sur le fait, et notamment de Pink Floyd, c'est intuitif ce que je dis, mais sur le fait de vouloir faire des formats, par exemple d'avoir des morceaux qui s'enchaînaient les uns aux autres. Léo voulait faire ça, une sorte de suite où c'est des morceaux différents, mais des climats différents, mais ça s'enchaîne. Ce que faisait un peu le rock progressif. Et donc, il a réfléchi à quel texte pouvait aller ensemble. Il a travaillé sur des gros textes longs, dont il a extirpé finalement des bouts. Et puis finalement, son album est un assemblage de choses différentes. Par exemple, Il n'y a plus rien au départ ne devait pas figurer dans son album. On expliquera quand on arrivera à la chanson ce qu'est Il n'y a plus rien. Ouais. Et Ne chantez pas la mort non plus. Mais bon, les circonstances ont fait que Jean-Roger s'est manifesté à lui. Il pensait que ce texte lui plairait. Il l'a donné à Léo. Léo a capté tout de suite, a fait quelque chose d'assez baudelairien, une sorte de requiem funèbre. Et il le chante à l'Olympia. Et donc, comme c'est l'album qui arrive juste après, il le met sur l'album.
Belle preuve d'amitié, alors, quand même.
Et ça va les relancer dans leur amitié, parce qu'après, ils vont se dire, quand même, il faudrait qu'on fasse un truc ensemble. Allez, on refait quelque chose ensemble. Et ça va mettre très longtemps à aboutir, parce que chacun étant un peu sur sa trajectoire... Bon, et puis il y a d'autres circonstances biographiques que je pourrais évoquer si on fait une émission sur Cosimon.
Et puis la distance physique aussi, Léo est en Italie.
Oui, alors après il est venu en Italie à plusieurs reprises. Ouais, et finalement, ça aboutit à cet album Les Loubards, que Cosimon entendra in extremis avant de mourir, 85. Donc là, du coup, Ne chantez pas la mort, je ne sais pas si je peux en dire autre chose.
Bon, c'est déjà pas mal.
C'est une belle chanson. Il y a beaucoup de gens qui aiment cette chanson parce qu'effectivement, l'écriture de Cosimon, ce n'est pas l'écriture de Léo. C'est une écriture qui est... plus limpide, plus... je sais pas comment dire, plus... c'est des métaphores moins surréelles, moins oniriques, moins surprenantes, et puis moins déstabilisantes aussi. La poésie de Léo peut être déstabilisante. Déstabilisante au sens où on se dit mais qu'est-ce qu'il me raconte, là? Là, Cosimon, ça reste toujours... On comprend la chanson. Alors, il y a cette espèce d'introduction qui est géniale, que Léo dit... Il dit « Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit. Les gens du show business vous prédiront le vide. C'est un sujet tabou. Pour poète maudit. »
Qu'il dit dans l'album, mais qu'il chante à l'Olympia.
Oui, bah tu vois, c'est-à-dire que...
C'est encore en travail,
il raffine,
quoi. C'est
voilà, encore, il raffine au fur et à mesure. Là, c'était ouais. assez neuf à l'Olympia. Et donc, du coup, il...
En work in progress, comme dirait...
les gens qui parlent bien la France.
Ouais, voilà. Je ne citerai pas de nom.
Bon, moi, je l'aime bien, Ne chantez pas la mort, mais elle est, c'est une belle chanson, mais... Bon, elle est bien, elle est bien. Elle est peut-être un tout petit peu longue, mais... Et elle est peut-être légèrement d'une tonalité... Alors, la musique, ce qu'on a fait Léo, reste sur quelque chose d'un peu funèbre. Enfin, de sombre, je vais dire. Parce que cet album est à tonalité sombre.
Oui, quand même.
Déjà, on n'a pas parlé de la pochette. Mais quand tu vois la pochette, le fond est noir, y a une solarisation verte, fluo. Léo, on ne voit pas ses yeux, c'est des deux orbites noires.
Oui, c'est vrai.
Ses cheveux tombent comme une sorte d'algue verte. On ne sait pas trop où on est. On se dit, oh, qu'est-ce que c'est ça ?
Ouais,
derrière, c'est vrai. Il a les yeux fermés, il dort seul contre un poêle sous une horloge dans une sorte de, sans doute, ce qui doit être un bistrot, puisqu'il y a une bouteille de Perrier sur la table, avec un journal. Donc il y a quelque chose, et il y a marqué « Dans 10 000 ans ». Bon. Et quand on ouvre le livret, oui. Il y a cette magnifique double page, effectivement. Alors là aussi, dans des couleurs totalement impossibles.